On l'a donné, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais
Tave.
Pas.
Et comment t'es rentré finalement?
Bah, j'ai téléphoné à quelqu'un du...
Bien les amis, allons-y. Erev Tov, Erev Tov, les Koulam, après les péripéties de ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ouais. Eh bien, voilà. Non mais c'est toujours bien. On revient dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes au chapitre 25. Ah, oui, eh oui, ça y est, on y est arrivé. Au chapitre 25. Donc... Mettons dressons le tableau, si vous voulez, du chapitre. Tout va bien. Tout va bien. Bon, Sarah est morte, certes, mais on a trouvé une femme pour Yitzhak. Et il n'y a plus de conflit. Ishmaël n'est plus dans la région. Tout semble aller bien. Et donc, maintenant, on peut s'occuper, pour Abraham, de ses projets personnels. Alors, on a souvent comme ça des gens... On a souvent des gens comme ça qui toute leur vie ils bossent pour leurs enfants, pour leur avoir de l'argent pour les enfants et pour les petits-enfants. À un moment donné, retraite, un peu de temps pour moi. Avraham vaikar isha ushma ketura.
On
ne
dit pas quel âge elle a quand même.
On ne dit pas quel âge elle a, on ne dit pas quel âge lui il a.
Non, lui c'est pas la peine, mais elle c'est intéressant.
Et pourquoi c'est pas la peine? Quel âge il a à peu près?
À peu près 100 ans.
Ah bah beaucoup plus que 100, puisque 100 ans il a mis au monde Yitzhak. Là on est après la Akeda, il a à peu près 140, 150. Voilà, vite fait quoi, ça va.
Pourquoi on ne vit pas 150?
C'est ça. Est-ce qu'on est connecté à la source de vie comme Abraham l'était? Ça peut-être la vraie question. En tout cas, lui il est plus tout jeune. Sa femme. Bah tu sais pas. Peut-être qu'il a pris une petite jeunesse.
Tu as dit que Ketura,
c'était... Nahon. Alors, je me rappelle de ce que j'ai dit. Je me rappelle de ce que j'ai dit. Je vous rappelle qu'avoir des bébés dans cette famille, ça ne dépend pas toujours de voie naturelle. Donc, c'est vraiment pas ça qui va le déranger. Mais en tout cas, c'est qui cette Ketura? Alors, cette Ketura, Chazal, vont nous dire, c'est Agar. Il est revenu chercher Agar. En fait, c'est pas lui, c'est Yitzhak. Qui est parti dans les versets qu'on a lus la dernière fois, juste avant la fin de notre dernier cours, que lorsque Yitzhak était il était parti chercher Agar pour qu'elle se remarie avec Abraham. Il sait que son papa il aimait bien Agar. Ils ont passé des belles années ensemble. Et donc il va la chercher. Alors pourquoi elle s'appelle pas Agar? Non, ça je nous dis parce qu'elle a fait tshuva. Ishinta ve atava et elle a bonifié ses actions. Kaketoret. Comme la ktoret qui fait une bonne odeur, eh bien elle maintenant elle est devenue quelqu'un qui donne une bonne odeur dans toute la maison. Donc c'est Ketura. D'accord? Maintenant, la Torah ne nous dit pas que c'est Agar et qu'elle a changé, machin. Pourquoi est-ce que donc elle ne nous dit pas? Parce que en fait, c'est pas ça qui est important. Il est très possible que dans les faits ce soit vraiment Agar, mais si la Torah ne nous le dit pas, c'est parce que c'est pas sur ça qu'on va se positionner. Si tu avais su que c'était Agar et qu'elle est devenue Ketura, eh bien tu aurais pensé qu'il y a un lien avec Ishmaël dans l'histoire. Ici, il n'y a pas de lien avec Ishmaël. Ok? Ce qui se passe ici, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, va Tosef, Avraham, va Ikar, Isha, Ushma, Ketura. Va Tel Edlo. Donc, ils ont enfanté. Pas que un, pas que deux, pas que trois, pas que quatre, pas que cinq. Six enfants. Et ça, c'est fantastique parce que c'est marqué noir sur blanc.
Sextuplé ou...
Ah, ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est en un coup ou pas en un coup. Non, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu demandes aux gens, à des juifs, religieux, qui ont étudié la Torah, tu leur demandes combien d'enfants il a eu Abraham, ils te disent deux. Yitzhak et Ishmael.
Il en a eu huit alors.
Alors qu'il en a huit. Et c'est pas que c'est un midrash qu'on a été chercher de derrière les fagots, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Mais on oublie ça. Pas chaud, on oublie.
Volontairement.
Est-ce qu'on oublie volontairement? Je sais pas. Mais... Oui, bien sûr qu'on a leur nom. Iné. Va-t-elle être Loet Zimran? Et Yokshan, Vet Medan, Vet Midian, Vet Ishbak, Vet Shuach. Ve Yokshan, Yalad et Sheva, Et Dedan, Ou Bene Dedan, Ayu Ashurim, Ou Tumim, Ou Letushim, Ou Leumim. Ou Bene Midian, Eifa, Ve Efer, Ve Chanor, Ve Avida, Ve El Da'a, Kol Ele, Bene Ketura. Donc on nous dit non seulement qu'il a eu des enfants, mais des petits-enfants avec eux. Nous. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de savoir qui ils sont? On aurait pu dire, bon, il a eu des enfants, machin. On a leur nom. Leurs noms, ils sont importants, particulièrement pour l'un d'entre eux.
Midian.
Eh oui. Parce que le fils d'Abraham, c'est Midian. Le Midian, je connais. Et qui va sortir de Midian ?
Yitro.
Bien sûr, Yitro. Donc, vous commencez à comprendre, en fait, ce qui se passe lorsque Moshe décide de partir à Midian. Pour retrouver la Torah d'Abraham. Il s'est désintéressé des Égyptiens, il s'est désintéressé des Hébreux en Égypte. Il part à Midian, dans le dernier vestige de la Torah de Chesed d'Abraham. Donc vous voyez, c'est pas rien. Yitro, c'est le dernier vestige de cet enseignement-là d'Abraham. Alors qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens-là ? Vaitan Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Il a tout donné ce qu'il possédait à Yitzhak. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a donné ?
La Torah.
Il tout possédait la Torah ? Il n'a pas encore reçu la Torah, Abraham. Certes, on nous dit qu'il faisait la Torah instinctivement. Ouais. Mais ça, Yitzhak aussi. Mm-hmm. C'est instinctif. Ce n'est pas quelque chose qu'il lui a donné.
La bracha ?
Quelle bracha ?
Je ne sais pas la bracha. Que... Il va recevoir la terre.
La terre et
ouais.
Et la descendance. Qu'est-ce qu'il a, Abraham ? Il a plein de troupeaux, il a plein de biens, il est très riche. Mais ce n'est pas ça, chez où ? Chez l'eau. Ça, ce sont des biens. Mais ma chez l'eau, c'est ce que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a donné l'alliance de la descendance et de la terre d'Israël. Donc tout ça, il a donné à Yitzhak. Ou levna pilakshim, asher le Abraham, Nathan Abraham matanot. Ah, je comprends pas. Comment il a pu donner des matanotes à ses autres enfants s'il avait déjà tout donné à Yitzhak? Donc c'est là qu'on comprend que quand il avait marqué tout donné à Yitzhak, il ne s'agit pas de biens matériels. Il s'agit, comme on a dit, de l'Aftara, de l'Alliance. Mais qu'est-ce qu'il a donné au Bnei Apilakshim? Matanot. Oh, des cadeaux.
Des troupeaux, par exemple.
Par exemple, des troupeaux. Rachid nous dit un truc bizarre. Il dit qu'il leur a donné Shem, Shemot, Tuma. Des noms d'impureté. C'est ça qu'Abraham il a donné à ses gosses. C'est pas très sympa comme
comme héritage.
Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe en termes d'héritage ? Moi, je sais que chez mes parents, il y a une vitrine comme ça, une vitrine en colonne comme ça. Et il y a trois choses dans la vitrine. Il y a des vaches décorées, dessinées de toutes les couleurs, je sais pas quoi. Il y a des sévivonim et il y a une collection de qui n'est pas dans cette vitrine-là, mais qui est dans une autre vitrine, du personnage de la Guerre des Étoiles nommé Boba Fett. Et il a d'ores et déjà été décidé que mon frère aîné recevrait la collection de Boba Fett. Et comme moi, j'ai la mauvaise idée d'avoir une kippa, alors il a dit, bah toi, tu auras les sévivonim. Et ma sœur, elle se tape les vaches. C'est vache, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a donné des pilaris de matin, Shem Touma, c'est ça qu'il a dû donner. Alors, Zéo, Mazé Shem Touma, c'est la possibilité de se rattacher au divin par des shemotes. C'est pas du tout cachère pour nous, c'est tamé pour nous. Peut-être que pour eux, c'est taor. Ils vont pas devenir le Ham Israël. Donc, quoi, il y aurait des choses comme ça qui. Une façon de se lier à de la spiritualité par la prononciation de mots, de noms. Bah, c'est ce qu'on appelle, les amis, le mantra. C'est très, très, très développé en Extrême-Orient.
Là, c'est là où ils sont partis.
Tous mes enfants sont comme ça.
Hein ?
Yoël, Michael, Ariel, Tania et Emmanuel.
Et ben quoi ?
Ils ont tous les noms de Dieu.
Ah non, ça c'est autre chose. Non, attention ! Là, tu dis pas ça. Toi, tu dis, j'ai mis Akadosh Baruch Hu dans le nom de mes enfants.
Voilà.
Mais ça, c'est pas Shem Touma. Ça, c'est Shem Kdusha. Parce que justement, tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est marqué dans la Torah. Mais s'attacher à de la spiritualité par d'autres choses, c'est tamé. Alors, tu dis, effectivement, c'est intéressant, le mantra, c'est vraiment ça. Hein. Il y a des dans le bouddhisme, machin. Le mantra, c'est une façon de s'attacher à la spiritualité en répétant un nom, un mot. Le plus connu de tous les mantras, parce qu'il a été mis en scène à Hollywood énormément, c'est quand tu vois un moine tibétain qui dit « Om ». Mais c'est un vrai mantra tibétain fort, « Om », agave. c'est un, dans la Kabbalah, c'est quelque chose aussi de très très fort. C'est Moussa-M, la maman, la matrice, la génératrice. D'ailleurs, c'est pas que en hébreu, pratiquement dans toutes les langues, la maman se dit de la même façon. C'est-à-dire qu'on utilisera quoi qu'il arrive un mot qui représente avec la bouche l'action de tété. M, maman, mamé.
C'est comme ça qu'ils disent.
Non, mais mette, c'est intrinsèque, c'est très profond. C'est-à-dire que quand tu dis maman, tu cherches l'origine. D'accord ? Maintenant, ça, c'est un mantra. Om, et il répète ça pendant des heures et des heures et des heures. T'en as plein d'autres, des mantras. C'est vrai ? Par exemple, il y a l'histoire de cet Israélien qui était au Mahon Meir, qui, après l'armée, il est parti en Inde faire son petit tour, là, machin. Il est parti en Inde, après au Tibet, machin. Et il a été rencontré le Dalai Lama. Et il lui a demandé, le Dalai Lama lui a demandé d'où tu viens. Il dit, je viens de Jérusalem et je viens apprendre les mantras. Il dit, mais ça, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que votre mantra à vous, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Il n'y a pas plus fort que ça. Ah, bon, d'accord, alors il est revenu à la Yeshiva. Mais en vérité, c'est vrai que tu dis, ça tombe bien. Parce que si c'est la spiritualité de l'extrême-orient, c'est exactement là-bas où ils sont allés. Puisque nous dit ici, Vaïtad Avraham et Kol Asher Lolitra Velubna Pshiachim Natan Avraham Natan Avraham Natanot, Vaishallechem Meal Itzrak Beno Beodenuchai, Kedma El Eretz Kedem. Il les a envoyés du vivant de Itzrak, enfin du vivant de son vivant et de, au loin de Itzrak, à l'est des pays de l'est. Donc c'est à l'est de l'est. C'est où? Ben c'est en Extrême-Orient. Ils sont arrivés jusque là-bas. Et là-bas, ils ont commencé à créer une spiritualité qui prend son origine chez nous et chez qui particulièrement? Chez Abraham. Et donc, rien d'étonnant à ce que leur Dieu créateur, il l'ait appelé Abraham. Et oui, en Inde, le Dieu créateur, il s'appelle Brahma. C'est vrai? Et c'est ce qu'on voit dans le Midrash. Dans le Midrash, on dit « Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz ». Ça, c'est la phrase du premier verset, du premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on dit, El toledot hashamayim va'aretz be'ibar'am. Chazal nous disent, Al tikra be'ibar'am, ne lis pas dans leur création, et là, be'avraham. Qu'est-ce que ça veut dire, be'avraham? Pour Avraham. Pour Avraham, le monde a été créé. Ah, maman. Les idolâtres, ils n'ont pas compris pour Avraham, ils ont dit, par Avraham. Et ils ont fait d'Avraham le créateur. C'est-à-dire, petite erreur d'aiguillage. Bon, ça aide. Donc ça veut dire que là, Abraham va pouvoir continuer ce qu'il avait commencé au tout début, à savoir diffuser son message de manière cosmopolite. Maintenant, c'est Besséder. On ne lui en veut pas maintenant, Abraham. Ça y est, vu qu'il a mis en place Yitzhak, tu peux t'amuser. C'est Besséder. Ve'ele yeme shene Abraham, asher chai. On dit, ele yeme shene Abraham, asher chai. Voici les jours de la vie d'Abraham qu'il a vécu. Eh oui, parce que c'est pas parce que tu es en vie que tu vis. Il y a des gens qui sont sur cette terre, et comme on dit en arabe, qui se schleppent sur cette terre. C'est de l'arabe, non? C'est de l'arabe du oui. Nord.
De l'ouest.
Bekitso, se schlepper, ça veut dire se traîner. Il y a des gens qui se traînent dans ce monde. Et ça peut être vrai à 20 ans, comme ça peut être vrai à 100 ans. Et il y a des gens qui vivent dans ce monde, qui produisent, qui laissent quelque chose. Et donc on dit, Ele yeme shene Avraham, asher chai, mea shana, veshivim shana, vechamesh shani. Pourquoi est-ce qu'on a dit comme ça, mea, veshivim, vechamesh? Les shivim vechamesh, ils résonnent pour nous. Parce que shivim vechamesh, par rapport à Abraham, c'est l'âge où il est parti de Haran. Donc en d'autres termes, combien de temps il a vraiment vécu en tant qu'Abraham? 100 ans. C'est-à-dire pendant 100 ans, il a fait son programme. Il a été l'instrument d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire donc Abraham, il vit 175 ans en tout. Vaigva vayamot. Vayamot Abraham. Beseva tova. Zaken. Vesavea yamim. Esra vesavea zera. Mais c'est Beseva tova. Qu'il n'a pas de problème avec ses enfants. Zaken, Shu Male Chochma. Vesavea, il a rempli son rôle dans ce monde. Eh bien. Moi, je connais une personne comme ça. Il y a peut-être d'autres, hein. Mais moi, je connais une histoire d'une personne comme ça qu'on peut dire la même chose de lui. C'était le Rav Moshe Bochko. Parce que moi, je me rappelle que le Rav Shaul David, il nous a raconté à la Shiva que, en fait, lorsque son père, il était bien jusqu'à la fin, quoi. Et à la fin, il avait très mal. Ils ont appelé l'ambulance. Et en arrivant à l'hôpital, il est décédé. Maintenant, il raconte que dans l'ambulance, les gens ne savaient pas. Mais mon père, ça faisait 5 ans qu'il avait commencé à écrire un commentaire de la Torah. Et dans l'ambulance, il avait son cahier et il a écrit. Et quand l'ambulance il est arrivé, le brancard, il dit, oh, Bouchko, j'étais à côté de lui. Hein. Le brancard, il est rentré dans l'hôpital, il a mis un point final à la fin de son commentaire, il a fermé le livre, il a mis la tête et il s'est endormi, il est parti, il est parti. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il avait 94 ans. Zaken, Vesaver. Vous savez où? Il a dit, Seva Tova, j'espère que nous, ses enfants, on lui a pas fait trop de problèmes. Il dit, mais voilà, vous savez où? Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. C'est gadol. Hein, c'est beau. Donc on nous dit de Avraham, pareil. Zaken, Vesaver. Vayasef el Amav. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. Et là on dit que ceux qui l'ont enterré c'est Yitzhak et Ishmael, c'est-à-dire d'abord Yitzhak et ensuite Ishmael. Donc ça, je nous dis de là Ishmael a fait teshuva. Il a fait teshuva parce qu'il a laissé Yitzhak passer devant. Ah, puisque c'est marqué comme ça dans la Torah, alors il y a un espoir pour l'islam actuel. Eh oui, l'islam qui est le descendant de Ishmael. Eh bien, si Ishmael a fait teshuva, l'islam aussi peut faire teshuva. Et peut laisser passer Yitzhak devant. Quoi?
Pourquoi on en doute,
non? Pourquoi on en doute?
Oui. Mais c'est pas réaliste de pas y croire.
Mais non, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, Outaï.
Oui, ce qui arrive.
Agave, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un monsieur qui s'appelle Eliezer Cherki. Je ne sais pas si tu connais. Lui, il explique ça très clairement, que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, et l'islam est en train de faire un travail, alors ça prend du temps évidemment, mais que de reconnaître Yitzhak et les enfants de Yitzhak. Ça prend du temps, mais...
Ça s'appelle l'esquem
d'Abraham. En l'occurrence, les accords d'Abraham, c'est un bon début. Non, parce que tu peux me dire, non mais il y avait eu déjà des accords de paix avec des musulmans, il y avait eu l'Égypte, il y avait eu la Jordanie, mais en fait c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que l'Égypte qui a fait les accords de paix, c'était une Égypte laïque.
Laïque, exactement.
Donc, ils ne venaient pas au nom de l'islam. Et la Jordanie, on leur a imposé la paix. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Là, c'est la première fois qu'un pays qui est musulman et qui se revendique musulman reconnaît l'État d'Israël. Alors, c'est vrai que les Émirats Arabes Unis, c'est pas le hardcore des musulmans. Mais dès que l'Arabie Saoudite reconnaîtra, alors là, ça sera autre chose. Et c'est en chemin. C'est en chemin. C'est-à-dire, donc, Bezrat Hashem. Iné. ויברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. דונק, סייה, לבוק לי בוק לי פור אברהם. ויחרה מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רוי. דונק, מנו, ליסטואר דו יצחק וקומוסי. Donc très bien, alors viens, on arrête. Viens, on passe à la prochaine paracha. Eh ben non. Ben non. Ve'ele toldot Ishmael. S'il a fait tchouva, alors il faut parler de lui aussi. 10 fois, dans tout le Tanakh, pas que dans la Torah, dans tout le Tanakh, 10 fois va apparaître le mot toldot, les engendrements. Seulement, des fois il apparaît en ktiv malé, c'est-à-dire... Tal, Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. Ou alors en Ktiv Chaser, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un des deux Vav, ou au début ou à la fin. Ou alors en Ktiv Chaser, Chaser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vav du tout. 2 fois, il apparaît en Ktiv Malé, Malé. 7 fois, il apparaît en Ktiv Chaser, c'est-à-dire un seul des deux Vav. Et 1 fois seulement en Ktiv Chaser, Chaser. Ktiv Malé, ça veut dire que c'est quoi? Que les deux vaves sont apparues, ça veut dire que toute la volonté du Créateur s'est réalisée dans ses engendrements. Lorsque c'est que un, c'est qu'une partie s'est réalisée. Lorsque c'est pas du tout, c'est que pas du tout.
C'est
pas du tout.
Pas du tout.
Ben vous aurez compris qu'il y a marqué Vele Toldot Ishmael.
Il n'y a rien du tout.
Ah, ça s'est pas encore du tout réalisé. Non, il n'y a pas de vave.
Je l'ai là.
Fais voir.
Non,
non, non, non.
Moi, j'ai pas de vave.
Incroyable. Eh bien, il se trompe.
Bah oui, bon.
C'est fou. Eh bien, ton Roumage se trompe. Il n'y a pas de vave.
D'accord. Il n'est pas souple.
Je sais pas, c'est un Roumage traduit en français. Mais t'as raison, il est vraiment ashkenaz.
Ah bah oui.
Ouais. Ouais. Bon, ça veut dire que tous les ashkenazes se trompent, hein.
C'est pour ça que j'ai regardé,
je dis. Non. Ben non, celui-là c'est sans vave du tout. Ken ve'le toldot Ishmael zekloum. Après, la majorité des fois, il y a une partie qui s'est dévoilée, mais il y a deux fois où c'est entier. C'est ve'le toldot hashamayim va'aretz. Non, dans le livre de Bereshit. Et le deuxième, c'est ce qu'on va lire dans quelques jours. Dans la Megillah de Ruth.
Ah,
eh oui, là où on va nous dire Ve'ele toldot Boaz. Boaz olid et Oved. Olid et Ishai. Ve'ishai olid et David. Donc les engendrements qui mènent au roi David, ça c'est complet. Ça c'est entier. Ça d'air Ve'ele toldot Ishmael ben Avraham, Asher yaldeda Agar, Amitzrit, Shifrat Sarah, le Avraham. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות. ווי. בסיפת לומו תולדות. מה שבר שיש תולדות. ווי. Alors, comme d'habitude, dès qu'il y a une liste de noms, c'est qu'il y en a un qui est important.
Ben oui, ben justement.
Alors, là, tu peux dire que celui qui est important, c'est Nevayot. Parce que Nevayot, il va avoir une importance dans la suite du récit. Puisque Esav va aller se marier avec la fille de Nevayot. Ou alors...
C'est hein écrit ?
Oui. Bon, on l'a pas encore lu, parce qu'on n'y est pas encore, mais oui, c'est marqué. On va y arriver. Mais il y a un autre problème. C'est que, d'après les commentateurs chez nous, et il semblerait que ça corresponde aussi d'après les historiens, que Mahomet, il vient d'une tribu qui s'apparente à Kedar.
Ah.
Kedar de ici.
Ah.
C'est-à-dire donc.
Il paraît ou.
Bah, c'est pas sûr à 100%. C'est-à-dire que chez nous, on a envie de le voir descendre de là. Et les historiens, ils disent que c'est pas incompatible. En fonction de là où ils habitaient, machin. Hein, il n'y a pas une filiation claire. Mais ça pourrait être. Et donc à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'être mentionné ici. Vekedar ve'adbe'el umivsam umishma ve'duma ve'massa. חדד ותימה יתור נפית וקדמה אליהם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצריהם ובתירותם 12 נשיאים לאומותם donc c'est à dire qu'ils ont construit des palais, ils ont construit des dynasties ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים 137 ans quand même le bonhomme ויגווה וימות ויאסף אל עמיו. Ils disent dans ça, à chaque fois qu'il y a marqué Vaïkva, c'est qu'on parle d'un tzaddik. Donc ça veut dire que Ishmael, à ce moment-là, tzaddik. Tzaddik, on a dit, il a fait tchouba. C'est-à-dire ? D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il va y avoir des gens qui vont s'appeler plus tard dans le peuple juif, Ishmael. On a un rabbi Ishmael. Comment ça ? Il y a un, il y a la chavruta de Rabbi Akiva, qui s'appelle Rabbi Ishmael. Il y a un autre rabbi qui s'appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol.
Pas rien.
Pas rien. Hein. Alors, comment tu peux donner le nom Ishmael ? C'est un nom magnifique, Ishmael. Ishmael. Alors, c'est joli, mais bon. Sauf que s'il a fait Tchouba.
Tchouba, c'est
bien. Eh ben donc, t'as pas le droit de lui rappeler ses périodes pas bien ?
Ouais. Ah oui.
Hein ? Excuse-moi. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu appelles des gens à qui va ?
Oui,
déjà. Hein, il y a des Akiva.
Moi, j'ai pas entendu beaucoup qui s'appelaient Cain, hein, par contre.
Mais parce qu'il a pas fait Tchouba.
Mais ça existe.
Ah ouais.
Cain, comprenons.
Oui, comprenons.
Eh ben, je plains l'enfant.
Il y a bien Nimrod aussi.
Hein? Et pareil, les gens qui appellent leurs enfants Nimrod, je les plains aussi.
Bah oui.
ne faut pas s'étonner après s'ils se révoltent contre eux. Hein. Nimrod. Non, c'est-à-dire que Akiva, il n'était pas religieux au début, il n'était pas un tzadique, mais il est devenu Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire bon. Ishmaël, il a fait plein de bêtises, mais il a fait Tchouva, il est devenu Ishmaël ben Abraham. Nous, il a fait mal. Bon, je ne sais pas si j'appellerai mon fils Ishmaël, mais, ça veut dire. Donc, Vaïkva, Vaïamot, Vaïasef, Elamav. וישכנו מחבילה אשור אשר על פני מצרים בואך אשורה על פני כל אחיו נפל. Il va s'installer dans tout le croissant fertile.
Dans quoi?
Tout le croissant fertile. C'est-à-dire dans toute la région du Moyen-Orient, on va trouver les enfants de Ishmaël. C'est-à-dire? Top! Donc maintenant, la balle est dans le camp de Yitzhak. Donc yalla, allons-y. Puisqu'on a parlé des toldot de Ishmael, faut qu'on parle des toldot de Yitzhak. Regardez comment commence la paracha. Vele toledot Yitzhak ben Avraham. Là, il y a un vav. Me dis pas que chez toi, ils l'ont pas mis. Vele toldot Yitzhak ben Avraham. Ils ont mis un vav.
Un seul.
Oui, un seul. D'accord, c'est ça. Ils l'ont mis
quand même. Comme avant. Hein.
Oui, mais bah, avant, ils sont plantés. Je me suis dit, peut-être, c'est là, ils vont faire l'inverse.
Mais tous ceux qu'on a trouvés, il va y avoir qu'un vav.
Tu as raison. Vele toldot donc Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Hein? D'abord, plusieurs questions. La paracha s'appelle Toldot. Bon, pourquoi pas? Et comment est-ce qu'on décide comment on appelle une paracha? Le premier mot important de la paracha. Bon, donc on peut l'appeler Vele toldot Yitzhak ben Avraham. Autant l'appeler Toldot. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait une paracha qui s'appelait Vele Toldot Noach. Et comment on a appelé la paracha?
Noach.
Donc de deux choses l'une. Soit tu appelles la paracha là-bas Noach et ici tu l'appelles Yitzhak. Bien fait. Soit, eh ben, tu appelles la première celle-là Toldot 2. Mais pourquoi est-ce que là-bas tu as dit Noach et là tu as dit Toldot? Eh bien parce qu'à l'époque de Noach, ce qui est important, c'est Noach. À l'époque de Yitzhak, ce qui est important, c'est les toladot. C'est les toladot, ses enfants. C'est-à-dire que ceux qui sont au centre du récit, ce n'est pas Yitzhak. Effectivement, on va voir que Yitzhak, il n'est jamais au centre du récit. On a eu deux parachutes entières sur Abraham, et là, on a zéro parachute sur Yitzhak en tant que personnage central du récit. Il est là, mais tu as l'impression qu'il est dirigé par les événements. Parce qu'encore une fois, Yitzhak... Il est monté sur le Mizbeach, il est passif. Sauf une fois, et on va voir pourquoi il est, à ce moment-là, il redevient actif. Mais ça, on verra, c'est un peu plus tard. Vele toldot Yitzhak ben Avraham. Ça suffit. Voilà les enchantements de Yitzhak, fils d'Avraham. Pourquoi on nous dit Ve Avraham, au lit de Yitzhak? Redondance. Et Chazal nous dit, bah parce que.
On répète.
C'est ce que je te dis. C'est bon, on répète. Eh bien. On répète parce que les gens se moquaient d'Abraham, disant que Yitzhak, c'était pas vraiment son fils.
C'était pas papa.
Eh oui, parce qu'il n'a pas, eu d'enfant avec Sarah pendant très longtemps. Elle a été chez Avimelech une nuit et boum, elle est enceinte. Et donc, non, Abraham, Olid et Yitzhak, c'est-à-dire qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham. C'est-à-dire quand tu vois Yitzhak, c'était la copie conforme d'Abraham physiquement, mais pas du tout au niveau de sa vie intérieure. Yitzhak c'est Midat Adin, Avraham c'est Midat Hesed. Ve'etoldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak, ve'yi Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka bat Betuel Arami mipadan Aram, achot Lavan Arami lo leisha. Là aussi, c'est très lourd. Yitzhak avait 40 ans quand il a pris Rivka. Est-ce qu'on ne sait pas que Rivka c'est la fille de Betuel? Est-ce qu'on ne sait pas que c'est la sœur de Lavan? Si on le sait, on l'a étudié dans la paracha d'avant. Après, on nous répète, ah, fille de Bethuel, sœur de la. Mais c'est pour te dire que regarde dans quelle famille elle a grandi, celle-là. Regarde qu'est-ce qu'elle avait comme Réchaïm avec elle. Et elle a réussi à être tzadika. Alors, c'est Gadol. C'est Bémet Gadol. Mais ça montre aussi qu'elle a quelque part un truc qui la rattache à un point négatif. Elle est quand même la sœur de Lavan. Ou alors, lui, il est quand même son frère. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, nous dira la Gemara, hein, alors pas à propos de ça, mais on peut le mettre en pratique à propos de ça. Arotse lisa isha yivdok be'achea. Kirov banim domim le'achea em. C'est ce qu'on nous dit dans le Talmud. Si tu veux te marier avec une femme, vérifie ses frères. Parce que la majorité des enfants que tu auras avec cette femme se ressembleront à ses frères. Bon, ben là, le frère de Sarah, de Rivka, c'est Lavan. Et donc, c'est qui la majorité des enfants? C'est qui les enfants de Yitzhak et Rivka? Esav. Esav et Yaakov. Ben voilà. Tu veux savoir d'où ça vient que Esav il est devenu ce qu'il est devenu? D'où il a, on va dire, pas la chokhma, mais j'allais dire la prédisposition pour faire n'importe quoi? Ça vient de Lavan. C'est pour ça qu'on te dit, rappelle-toi que Rivka, c'est la sœur de Lavan. C'est ça? Vayetar Yitzhak la Hashem le nochach ishto ki akara hi. Yitzhak a prié pour Rivka, sa femme, parce qu'elle est stérile. Nous? Ma Evdel, quelle est la différence entre la stérilité de Sarah et celle de Rivka? Nous disent nos sages, toutes les imaot, elles étaient à Karot. Et Sarah, et Rivka, et Rachel, et Léa. Seulement, chacun, c'était pour une raison différente. Sarah, elle pouvait pas avoir d'enfant. Sarah, Sarai Akara, en la valade. Hein?
Abraham, oui, pouvait avoir.
Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce qui posait problème chez Sarah? Ce qui posait problème chez Sarah, c'est qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Donc on nous dit, Sarai Akara, virgule, en la valade.
Enla,
c'est vrai, autant pour moi. Tu vois, je me suis moi-même perturbé. Sarah, elle était stérile parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des enfants. Elle aurait été chez le médecin. Je lui ai dit, mais tout va bien, madame. Tout va bien, ça marche. Mais elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle était stérile. C'est-à-dire que Sarah et Akara, virgule, lama, enla valade. C'est juste qu'elle n'en a pas. Elle devrait pouvoir en avoir, mais elle n'en a pas. Rivka, Yakara. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Elle avait 5 ans.
Quoi?
On dit qu'elle avait 5 ans quand ils se marient.
Oh. Qui dit ça?
Qui dit ça? Ça raconte.
Oui, mais non. Parce que si déjà tu balances les rumeurs, balance les vrais. Elle avait 3 ans.
À 3 ans, elle
avait. Ah bah.
C'est encore mieux.
Eh bah alors.
Quand même.
Bien sûr. Il s'est pas marié avec elle. Il n'a pas conçu avec elle.
Évidemment.
Non, à 3 ans. Non. Quand est-ce qu'il a eu des relations avec elle? Quand elle était apte à avoir des relations. Je ne sais pas s'il a 20 ans, 12 ans, 20 ans, je m'en fiche. C'est-à-dire, le Maharal de Prague nous dit, quand on te dit qu'il s'est marié avec elle à 3 ans, ça veut dire qu'à 3 ans, ils étaient consacrés l'un l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu une vie de couple. Quand elle a pu avoir des enfants, ils ont essayé, il n'y a pas. Nous disent nos sages. Il y a Kara Mamash. À tel point, il veut dire qu'elle n'a pas d'utérus.
Bon, on m'avait dit que c'est Sarah qui n'avait pas d'utérus.
Non, mais justement, c'est ce que je voulais te dire, mais en fait. Elle n'a pas d'utérus. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Top. Après, on a Rachel. Rachel, on dit que Hachem Sagar Rachma. Que Dieu, il a fermé son utérus. Alors, pourquoi? Parce qu'elle s'est un peu vantée devant sa sœur. Et Léa, elle était stérile jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
C'est
une bonne raison. Elle était stérile, en fait, jusqu'au moment où il fallait qu'elle ait un enfant. C'est-à-dire, donc elle, ça s'est fait naturellement. Mais qu'est-ce que là, on est en train de te dire? On est en train de te dire que la descendance du peuple juif, elle n'est pas naturelle. Les Imaot, elles sont stériles. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à Israël, son essence, il est mais à la Teva. Et pour Rivka, ben, Mehmet a dit à Yitzhak, prie. Prie. Toute notre histoire est au-dessus de la nature. Et donc, Rivka, elle dit à Yitzhak, elle dit à son mari, ben, vas-y, prie pour moi.
Hein? On est encore là en tant que juif, c'est déjà.
Mais c'est complètement au-delà de la nature. Donc vayetar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto ki akarahi vayater lo Hashem vatar Rivka ishto. Donc Dieu lui a répondu à lui, à sa tfila à lui. C'est évident que Elle aussi, elle a prié, puisqu'on nous dit le Nochach Ishto. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle était là, elle aussi, elle priait. Mais Dieu, il a accepté la tfila d'Avraham, d'Yitzhak, et pas celle de Rivka. Lama. Parce que nous dit la Gemara, lo domé tfila shel tzadik ben tzadik, mi tfila shel tzadik ben racha. La tfila d'un tzadik fils de tzadik, c'est plus fort que la tfila d'un tzadik fils de racha.
Moi, je pensais que c'est parce que lui, il a prié pour elle, et elle, elle a prié pour elle.
Et pourquoi pas pour lui ? Lui non plus, il n'a pas d'enfant.
Ah oui. Moi, je pensais qu'elle, elle ne pouvait pas. Mais peut-être que
ben d'accord, mais il ne peut pas faire un bébé tout seul. Non, c'est même si la chanson de Jean-Jacques dit autrement. Oui. Mais là, on ne peut pas. Donc, ils ont prié tous les deux. Ils veulent tous les deux un enfant. Mais Dieu écoute sa prière à lui et pas à elle. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'une tfila d'un tzadik, fils de tzadik, est plus grande que celle d'un tzadik, fils de racha? Moi, j'aurais intuitivement pensé l'inverse. Le tzadik, fils de tzadik, il n'a pas tellement de mérite. Il est tzadik, parce que son père était tzadik. Il a vu ça depuis toujours à la maison. Celui qui a fait tchouva, t'en t'imagines? Ken aval. C'est vrai qu'il y a un grand mérite à celui qui a fait tchouva. Aval.
Aval, Dieu lui a dit qu'il aurait une descendance. Alors,
il
faut bien qu'elle vienne. Hein.
Ça, j'entends bien. Mais ça, si je me permets, j'y reviens dans 2 minutes. Ok? Là, je m'intéresse simplement à pourquoi sa tfila à lui et pas à elle. Pourquoi est-ce que le tzadik ben tzadik, c'est le ter tov mit tzadik ben racha? Parce que Sigmund Freud nous a expliqué que tout fils, tout enfant veut se révolter contre ses parents. Parce que c'est le moment où il a envie de se prouver son existence. Il n'est pas seulement le fils d'eux, il est quelqu'un. Bon, ça a l'air. Donc, puisque l'enfant, il a toujours envie de se révolter contre les parents, si ton père, il est rachat, t'as envie de devenir tzadik, juste pour l'embêter. Et si ton fils, ton père, il est tzadik, toi, t'as envie de devenir rachat, juste pour l'embêter. Donc, si ton père était tzadik et t'as réussi à être tzadik aussi, ouah, c'est que t'es vraiment tzadik. Eh oui, d'autant plus que Yitzhak, il n'est pas devenu un copier d'Avraham. Il était tzadik, mais à sa manière. Donc, c'est vraiment une mahala extraordinaire. Alors, par contre, tu dis... Et Dieu, pourtant, lui avait promis une descendance. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont tous les trois des avot. Ron, sont des patriarches. Ce qui est assez perplexe, parce qu'ils sont tous les trois avec des femmes qui ne peuvent pas donner d'enfants. Il n'y a rien de plus absurde que d'être un av et de ne pas avoir de ben. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est machnis et tzadik, Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans une situation absurde. Pourquoi ? Pour qu'il prie. Parce que le tzadik, il a tendance à ne pas prier. Eh oui. Les tzadikim sont très dangereux parce qu'ils ne prient pas. Un vrai tzadik, ça ne prie pas.
Mais toute sa vie, il n'est que prière.
Mais non. Ça, c'est un faux tzadik. Un vrai tzadik, ça ne prie pas. Pourquoi ça ne prie pas ? Parce que le tzadik... Mais c'est la tfila. La tfila, c'est demander à Dieu de changer quelque chose dans le monde. Genre, il y a un truc, je suis pas d'accord, je pense que c'est pas bien. Monsieur et madame, un tel sont malades, je demande que tu amènes la réfoua. C'est-à-dire, je dis à Dieu, c'est pas bien ce que tu as fait, moi je pense qu'il faudrait qu'ils soient en bonne santé. Le tzadik, ou matzdik, est Hachem. Le vrai tzadik, il a tendance à... Bah, le tzadik, normalement, il accepte ce que Dieu y fait et il pose pas de questions. Ou tzadik.
Il justifie tout.
Il dit, c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas de raison de changer. Quand quelqu'un, Chas v'Shalom, part, on dit ce qu'on appelle Tzidouk Adin. C'est on accepte le jugement de Dieu. Donc le tzadik, tu viens le voir, tu dis, Rabbi, prie pour moi parce que j'ai mal au ventre. Si c'est Dieu qui veut que tu aies mal au ventre, moi je ne vais pas intervenir, hein, c'est pas moi. Hein. Et donc, Béhémet nous dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu mit'ave le tfilatam shel tzadikim. Que Dieu, il a une ta'ava d'avoir les tfilot des tzadikim. C'est quoi une ta'ava? Une ta'ava, une envie forte, c'est quand la chose est rare. Parce que si tu manges tout le temps du ketchup, t'as pas de ta'ava de ketchup. Chocolat, si c'est tout le temps présent, ça s'appelle plus une ta'ava. Hein?
C'est déjà mieux.
C'est déjà mieux le chocolat? Pas faire grossir et tout. Mais si t'as une fontaine à chocolat chez toi, et tout le temps t'en manges, c'est plus une ta'ava. Donc si les tfilot des tzadikim, c'est tous les jours, Dieu il n'a pas de tav. Mais comme c'est des tzadikim, ils n'ont pas tendance à prier. Donc Akadosh Baruch Hu mitave les tfilatam chez tzadikim. Donc il va mettre le tzadik dans une situation absurde pour qu'il prie. C'est vrai? Et donc va y être et Ivka tombe enceinte et arrive la fameuse scène de la grossesse de Rivka. Va y trotsetsu abanim bekirba. D'abord, il faut que vous sachiez, je le rappelle, je le dis souvent, mais à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Et ça peut paraître fou, mais il n'y en avait pas. Et donc...
Non.
Eh ben voilà.
50 ans, il n'y en avait pas longtemps.
Eh ben voilà. Donc, quand il n'y a pas d'échographie, tu n'es pas censé savoir qu'il y en a deux.
Sauf si bouge, ça dépend. Si ça bouge, si.
Comment ça, si ça bouge? Non, et ça bouge aussi quand il n'y en a qu'un.
On peut savoir qu'il y en a deux.
J'ai pas compris. Ouais, un bon gynéco, c'est autre chose. Il va palper le ventre. Il va... Ok, peut-être. Mais Stam, une maman. Et puis tu me dis, il va donner des coups. Ben d'accord, mais des fois, quand il y en a qu'un, il donne des coups aussi.
Ouais, ouais. C'est pas le même genre.
Ouais, t'en as eu deux.
Non, mais là, elle pouvait pas savoir de toutes les façons.
Non, tu vois
hein, parce que c'était sa première grossesse.
Non.
Donc.
Bon, on a quelqu'un ici qui a eu des jumeaux qui peut nous dire. Non. Bon, bah alors. Donc pour l'instant, on va dire que on peut pas savoir. Et puis de toute façon, même si on peut savoir, c'est pas dans un premier temps.
Non.
C'est pas au début de la grossesse. Et donc là, elle voit que ça se bouscule dans son ventre. Alors comment ça se bouscule dans son ventre? Chazal nous dit de manière très poétique que lorsque Rivka se baladait devant la tente de Shem ve'Ever, oui, il y avait des contractions. Lorsqu'elle baladait, elle se baladait devant les temples de Avodah Zarah, contraction. Et donc, elle comprend pas. Mon bébé, il est attiré par quoi? Par Dieu ou par l'idolâtrie? Et regardez ce qu'elle dit. Va être tetsu abanim bekirba va tomer imken. Si c'est comme ça, c'est pas clair. Quel est le Dieu de cet embryon? Imken, lama zekore. Ze anochi. Nous, on traduit. J'ai ici un roumage traduit. On nous dit si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné?
C'est la même traduction.
Et elle alla consulter le Seigneur.
C'est
absolument pas ce qui a marqué. Vous serez d'accord avec moi? Imken, si c'est ainsi, ça. Allez. Lamaze anochi, ça veut dire littéralement pourquoi c'est moi?
Pourquoi ça tombe sur moi?
C'est pas ce qui a marqué.
Ah, parce
marqué pourquoi c'est moi?
Pourquoi c'est moi?
Ils ont traduit Anochi par...
Eux, ils ont traduit, si c'est un sli, à quoi suis-je destiné?
Oui, j'ai la même traduction.
Hein?
J'ai la même traduction.
En vérité, hein?
Toi aussi?
Il faut mettre la virgule avant. Va être tetsu abanim bekirba. Va tomer imken lama. Point. Ze ou Anochi? Il y a deux dévoilements de Dieu dans le monde. Il y a Dieu qui se dévoile Baolam Azé. Il s'appelle Zé. C'est ce qu'on a dit dans l'ouverture de la mer Rouge. Lorsqu'on a vu Dieu, on a dit Zé Eli Ve'anveu. Donc Zé, c'est le dévoilement de Dieu Baolam Azé. Les Grecs ont très bien compris, puisque leur Dieu principal, ils l'ont appelé Zeus. Zéou. Zéou. C'est énorme. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le dévoilement des forces divines, Baolam Hazé. Seulement, les idolâtres, ils s'arrêtent là, et ils disent, bon ben voilà, c'est où? Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Mais à chaque fois, ce sont des dévoilements des forces de Dieu, Baolam Hazé. Donc Dieu, Baolam Hazé, il s'appelle Zé. Ah, Dieu, lorsqu'il se dévoile au-delà du Baolam Hazé, il dit, Anochi Hashem Elohecha Asher Otzeticha. C'est Anochi. Et donc elle demande, mais c'est qui le Dieu de mon fils? Zé ou Anochi? Donc qui est le seul qui peut répondre? Dieu. Donc va-t-elle être l'hydroche et ta chair? Ok? Le seul qui peut me donner une réponse, c'est Ribono Shel Olam. Donc elle est partie voir Dieu. Quelle va être la réponse de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.